Lead the Change. Tous acteurs du changement.
Respirer un air pur dans les villes. En 2020, cette aspiration est plus prégnante que jamais. De nombreuses capitales mondiales y répondent en déployant des plans d'action à grande échelle. Car même si la tâche est immense, la bonne nouvelle, c'est que des solutions existent. C'est ce dont nous allons parler dans ce premier épisode de Lead the Change avec Jérôme Arnaudis, directeur qualité de l'air chez Suez. Bonjour Jérôme.
Bonjour Vanessa.
Y a-t-il selon vous une prise de conscience mondiale autour de la nécessité d'améliorer la qualité de l'air?
Oui, il est clair qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience massive de l'impact de la pollution de l'air et donc de la qualité de l'air. Ça a d'ailleurs été renforcé avec la crise du Covid, puisque le ralentissement des activités humaines pendant le confinement a amélioré la qualité de l'air. Et donc on a vu des zones comme par exemple à côté de Milan, à Santiago du Chili, ou encore à Shanghai ou même à Paris. Dans ces villes-là, la pollution baissait, on pouvait finalement observer la nuit, les étoiles, la lune, et la journée, voir le ciel, ou même le soleil. Donc il y avait effectivement une prise de conscience massive dans le monde de ce que signifie finalement respirer un air de bonne qualité.
Amener plus de nature dans les villes en végétalisant les murs des immeubles ou en plantant des arbres. C'est le parti pris qu'ont adopté des villes comme Londres pour améliorer la qualité de l'air. Qu'apportent les solutions de traitement de l'air par rapport aux capacités dépolluantes des végétaux?
Alors c'est clair, la nature doit revenir dans les villes, c'est une forte attente citoyenne, et moi le premier. Cependant, il ne faut pas tout mélanger. Les arbres, les plantes, sont très efficaces pour capter certains polluants, mais pas tous. Si par exemple on prend les arbres, ils peuvent servir de barrière physique, c'est-à-dire qu'ils peuvent retenir les poussières notamment, donc les particules fines. Par contre, ces particules, elles vont se déposer sur les feuilles, et donc ensuite, c'est l'arbre qu'on empêche de respirer ou qu'il va respirer moins bien. Il faut savoir aussi qu'il y a deux poumons sur la Terre. On a un premier poumon, c'est la forêt amazonienne, on nous en parle beaucoup. Le deuxième poumon, c'est les microalgues. Les microalgues, c'est des microplanctons qu'on retrouve dans les océans. Ce sont ces microalgues qui ont permis, il y a plus de 2 milliards d'années, que notre atmosphère, qui était très chargée en CO2, en fait, contienne plus d'oxygène. C'est cet oxygène aujourd'hui que l'on peut respirer dans l'atmosphère. Et donc, nous avons choisi chez Suez, avec notre partenaire Fermental, de développer toute une gamme de solutions en utilisant ces microalgues et donc quelque part ce phénomène naturel qui consiste à capter le CO2 grâce à la lumière et le transformer en oxygène. On appelle ça la photosynthèse.
Quelles sont les différences que l'on observe entre les arbres et les microalgues en termes de capacité de traitement de l'air?
Les microalgues vont avoir des capacités de photosynthèse, donc des capacités à respirer, plus importantes que les arbres. Et donc pour un espace au sol donné, les microalgues auront de meilleures performances que les arbres. Alors attention, on ne veut pas opposer les arbres et les microalgues, on a besoin des deux. Par contre, il y a des endroits où il vaut mieux pousser certaines solutions que d'autres.
Alors, quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener pour améliorer la qualité de l'air dans les villes?
Alors, il faut d'abord réduire la pollution à la source par de bonnes pratiques, et puis quand on ne peut pas faire autrement, dépolluer l'air, particulièrement dans les endroits sensibles. Nous inaugurons par exemple en région parisienne, avec la région Île-de-France, un système de traitement dans les cours d'école qui absorbe les particules fines, le dioxyde d'azote, les composés organiques volatiles et probablement demain les virus. Alors pourquoi les enfants? Il faut savoir que les enfants respirent beaucoup plus vite qu'un adulte, à peu près 1,5 fois plus. La pollution de l'air aussi a plutôt tendance à stagner, donc on la retrouve plutôt entre 1 mètre et 1 mètre 50 du sol. Et puis enfin, un enfant, il construit son métabolisme futur, il construit son corps d'adulte futur. Donc c'est une population qui est pour nous hypersensible et c'est pour ça, et j'en suis très fier, qu'on innove dans ce domaine pour eux.
Je crois qu'on innove aussi dans les transports souterrains. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
On a développé une solution pour les métros. Il faut savoir qu'en fait, dans le métro, la pollution est assez importante parce que les métros freinent et ils génèrent des poussières. Alors ça concerne le métro de Paris dans lequel on a fait nos tests, mais ça concerne aussi tous les métros dans le monde. Et donc on a testé une nouvelle solution qui permet par principe d'aimant de capter ces particules, cette pollution particulière, de manière à la débarrasser de l'air des métros.
Quels sont les pays qui ont pris le plus d'avance sur ce sujet?
Alors j'en ai un qui va vous étonner, mais pour moi c'est la Chine. Alors ils partent de très loin, c'est-à-dire que la qualité de l'air en Chine n'est pas bonne. Par contre aujourd'hui ils investissent massivement dans les solutions de traitement, dans les actions qu'ils mettent en place. Ils ont un programme qui s'appelle Ciel Bleu, et ça fait maintenant plusieurs années qu'ils investissent énormément là-dedans. L'Europe est en train aussi d'accélérer, et la France en fait partie. Et je citerai un troisième pays qui est pour moi aussi à la pointe, c'est la Corée du Sud. Si je prends le métro, par exemple, de Séoul, eh bien le métro de Séoul, ça fait maintenant plusieurs années qu'il traite la pollution de l'air pour avoir un meilleur air dans le métro.
Et puisqu'on parle d'innovation, l'intelligence artificielle a-t-elle un rôle à jouer ?
Alors oui, l'intelligence artificielle peut nous aider, notamment à comprendre les problèmes, les phénomènes en fait, qui sont souvent complexes. Et donc on utilise des supercalculateurs. Et donc on a développé justement des outils digitaux qui captent, qui collectent plein de données, que ce soit sur la qualité d'air, que ce soit sur le trafic routier, la topographie, la météo, et qui permet en fait de retranscrire sur une cartographie la qualité d'air avec des niveaux de précision qui sont aujourd'hui très importants à l'échelle de la rue et du numéro de rue. Donc quand vous habitez au 18, vous savez quel air vous respirez, et votre voisin du 20 ou du 30 dans la rue, c'est la qualité d'air qu'il respire. Alors un autre exemple que j'aimerais aussi citer, parce qu'on y pense finalement peu, c'est la qualité d'air dans les ports. Il faut savoir que le trafic maritime génère lui aussi de la pollution, on en parle peu, un peu plus, mais moins que dans les villes. Et donc nous avons récemment équipé les 5 ports des Baléares, capteurs, où on va monitorer la qualité d'air, et ainsi que le bruit, de manière à mieux comprendre ces phénomènes et de pouvoir ajuster les actions en fonction.
L'aménagement des villes, horizontal ou vertical, a-t-il un impact sur la pollution de l'air ?
Alors oui, clairement, la façon dont est construite une ville est importante. On a tendance à avoir deux types de villes, hein, les villes horizontales et les villes verticales. Et c'est vrai que dans une ville horizontale, donc peu d'immeubles qui sont hauts, bah, l'air circule mieux. Et donc, en fait, on a moins de pollution. A contrario, dans une ville où vous avez beaucoup d'immeubles, vous créez des poches d'air. L'air stagne, il circule finalement assez difficilement dans la ville. Et donc c'est dans ces bulles-là qu'on va retrouver beaucoup de pollution. Et puis il y a aussi la météo. On parlait du vent, hein, finalement, avec les villes horizontales et verticales. Eh bien aussi, on peut trouver les nuages. Enfin, les nuages peuvent être impactants, parce que quand une ville a beaucoup de nuages, la pollution de l'air reste entre le sol et ces nuages. Et là aussi, on crée une sorte de bulle d'air pollué. C'est le cas dans des villes comme Londres, par exemple, ou Dunkerque en France. La pluie aussi peut avoir un effet, par contre là, bénéfique, puisqu'en fait, les fines gouttelettes vont capter les particules fines, les poussières, et vont les débarrasser de l'air. Enfin, le soleil. Alors lui, le soleil, conjugué à l'activité humaine, il peut générer par contre certaines pollutions. On parle de pics de pollution à l'ozone, notamment l'été, parce qu'il y a certaines réactions chimiques qui font qu'avec le soleil et l'activité humaine, on crée ce polluant, notamment l'été.
Pour finir, si l'on ne devait retenir qu'un seul geste que chacun pourrait adopter pour améliorer la qualité de l'air, quel serait-il ?
Si on devait avoir un réflexe quotidien, ce serait de regarder la qualité de l'air, comme on regarde la météo, et d'adapter notre comportement en fonction. Par exemple, si ce matin, la qualité de l'air est plutôt moyenne ou mauvaise, il vaudra mieux privilégier les transports en commun plutôt que la voiture. Dans la même idée, si la qualité de l'air est meilleure à 19h qu'à 17h, on pourra retarder sa séance de sport pour respirer un air de meilleure qualité. Et n'oublions pas que nous pouvons tous agir pour améliorer la qualité de l'air.
Merci Jérôme Arnaudis pour votre éclairage sur les solutions pour relever ce défi mondial. C'était le premier épisode de Lead the Change. Retrouvez nos prochains podcasts sur suez.com.